RFI 9h à Paris, 8h à Kinshasa et 3h à Port-au-Prince.
Andréane Mélard.
Et Léa Boutin-Rivière pour le journal.
Bonjour à toutes et à tous. La France parle de dette. En Haïti, on parle de rançon. Il y a 200 ans, la Première République noire payait le prix fort pour son indépendance. 150 millions de francs or. Une somme qui a laissé des traces visibles encore aujourd'hui dans le pays.
En 4 ans, le régime de Pol Pot aura fait 1 700 000 morts. Cela fait 50 ans aujourd'hui que Phnom Penh est tombé.
La capitale cambodgienne prise par les Khmers rouges à l'issue de plusieurs mois de combats. Un demi-siècle plus tard, la blessure est toujours à vif et le devoir de mémoire plus important que jamais. C'est une image rare, improbable, et pourtant, hier, le mythique stade Bernabéu à Madrid a chanté en anglais, et pour cause. En quart de finale, retour de la Ligue des Champions, Arsenal a eu raison du Real sorti du championnat.
Il y a 200 ans, jour pour jour, Haïti accédait à une liberté chèrement acquise.
Une liberté bâtie parfois au prix de leur vie par des esclaves révoltés et une liberté chère payée. Des dizaines de millions de francs or, l'équivalent aujourd'hui de centaines de millions d'euros. Ce n'est qu'en échange de cette somme, pour les anciens propriétaires de terres et d'esclaves, que la France a accepté de reconnaître l'indépendance de la première République noire au monde. Et ce prix colossal a pesé sur toutes les étapes du développement d'Haïti. Juliette Chénion, bonjour.
Bonjour.
Cela fait plusieurs décennies que la population réclame la réparation de cette somme.
Oui, 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons esclavagistes. C'est le prix de cette dette acceptée en 1825 sous la contrainte, les bateaux et les canons du roi Charles X menaçaient alors Port-au-Prince. Une dette souvent qualifiée d'odieuse, explique le chercheur haïtien Jean-Marie Théodat.
Le paradoxe de la situation, c'est que c'est le vainqueur qui doit verser une rançon au vaincu, puisqu'en 1803, les Haïtiens avaient vaincu l'armée française pour proclamer leur indépendance. C'est un versement indu. Ceux qui ont véritablement subi des dommages, ce sont les esclaves.
Mais ce n'est pas tout. Pour régler cette somme bien supérieure aux ressources haïtiennes, le pays est obligé d'emprunter à des banques françaises, payant intérêts et commissions jusque dans les années 50.
Il y avait les éléments d'une modernisation de l'État qui malheureusement n'ont pas pu fleurir à cause de ce manque structurel de ressources.
Et alors Juliette, les spécialistes estiment que sans cette dette, l'économie d'Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, ressemblerait à celle de la République dominicaine voisine.
En effet, Haïti a payé l'équivalent de 493 millions d'euros actuels à la France, d'après les chiffres du New York Times dans une enquête publiée il y a 3 ans. Cela a freiné sa croissance économique et Haïti aurait en fait accumulé un retard total de plus de 18 milliards d'euros sur le long terme.
Et 200 ans plus tard, à cette date symbolique, eh bien les attentes des Haïtiens sont grandes.
Oui, car Haïti traverse une grave crise économique et sécuritaire. Les gangs contrôlent 85% de la capitale. Il faut donc du concret pour Marcelin Nadeau. C'est un député de la Martinique, signataire d'une résolution à l'Assemblée nationale qui préconise réparation et indemnisation de la part de la France.
Comme on dit en créole, pardon pas diribos, le pardon ne guérit pas les plaies. Il faut certes des symboles, mais il faut aussi des modalités concrètes pour permettre au peuple haïtien de sortir de cette situation plutôt grave.
Pour le moment, une réparation financière ne semble pas officiellement sur la table. Dans un contexte d'effondrement de l'État haïtien en proie à la corruption, le président Macron doit tout de même reconnaître ce jeudi, d'après l'Élysée, la force injuste de l'histoire qui a frappé la République haïtienne dès ses débuts et lancé un chantier mémoriel, c'est-à-dire un travail historique pour évaluer l'impact de cette dette sur le développement d'Haïti. Un travail dont le président se dit prêt, je cite, à tirer toutes les conclusions.
Le président se garde bien de préciser. Merci Juliette. Si une réparation pourrait être envisagée. Si c'était le cas, cela enverrait en tout cas un signal à d'autres ex-colonies qui exigent des réparations, comme la Guyane. Et on continue de parler de cette dette dans notre journal d'Haïti et des Amériques avec un reportage de notre correspondant à Port-au-Prince et notre invité Pierre-Yves Boquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Rendez-vous à 13h, temps universel. Près d'un tiers de la bande de Gaza transformée en zone tampon, c'est ce qu'a annoncé hier l'armée israélienne, un mois après la reprise des combats avec le Hamas. L'État hébreu a aussi, une fois de plus, exclu l'entrée d'aide dans l'enclave palestinienne, où la situation humanitaire est pourtant, selon l'ONU, la plus grave depuis le début du conflit.
Ces déclarations témoignent d'un nouveau durcissement des positions israéliennes.
Un durcissement que l'on retrouve aussi chez une partie de la population, et l'esplanade des mosquées à Jérusalem est l'un des théâtres de cet affrontement idéologique. Il y a 2 semaines, le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur ce lieu saint, de l'islam pour prier, provoquant la colère des musulmans. Depuis, nombre de juifs extrémistes ont pris le relais. Reportage de notre envoyé spécial à Jérusalem, Abla Jounaïdi.
Tout près de l'esplanade des mosquées, ils se font entendre. Un groupe de juifs extrémistes devant des policiers et des soldats tout sourire qui se joignent à la danse. En ce quatrième jour de la Pâque juive, ils sont au matin déjà 1200 à avoir accédé au lieu réservé aux prières des musulmans. Une ambiance qui trouble les fidèles comme Roula, une habitante de Jérusalem.
Il y en a beaucoup, énormément. Même sur le chemin, quand ils sont ici, ils nous provoquent, font des choses mauvaises. C'est extrêmement triste.
Allô, bonjour. Écoute, on a vu un groupe de 215 personnes ce matin, je te jure.
Le cheikh Hazam El-Khatib dirige le département du Waqf qui administre les lieux. Présent ici depuis 50 ans, il est bien placé pour savoir que le phénomène n'est pas nouveau. Mais pour lui, la responsabilité du gouvernement israélien actuel est entière, de l'effondrement du statu quo au soutien apporté aux extrémistes.
Le gouvernement israélien a pris la décision unilatérale d'ouvrir la porte des Maghrébins aux touristes, mais aussi aux extrémistes juifs, sans notre accord. Dans le même temps, certains affirment publiquement qu'il faut détruire la mosquée d'Al-Aqsa. C'est le cas du groupe des fidèles du Mont du Temple qui sont aujourd'hui au gouvernement.
Si les pressions se font plus grandes, y compris sur les employés du Waqf, le cheikh Al-Khatib n'entend pas plier, car, dit-il, ce lieu existe pour 2 milliards de musulmans dans le monde. Abla Jounaïdi, Jérusalem, RFI.
Et malgré les efforts diplomatiques, la situation semble toujours sans issue. Le Hamas étudie en ce moment une proposition de trêve israélienne, mais le groupe armé palestinien a prévenu hier qu'il refuse de discuter du désarmement de la bande de Gaza, une condition pourtant fixée par le texte.
Et c'est pour tenter de débloquer la situation qu'une délégation américaine se rend aujourd'hui à Paris.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ainsi que l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, rencontreront Emmanuel Macron dans la journée. La guerre au Proche-Orient va effectivement être abordée, mais c'est surtout pour discuter de l'Ukraine que l'équipe de Donald Trump fait le déplacement. Car malgré les promesses grandiloquentes de ces derniers mois, Guillaume Nodin, eh bien la paix demeure pour l'instant hors de portée.
24 heures, c'est le temps dont Donald Trump affirmait avoir besoin durant la campagne présidentielle américaine pour arrêter la guerre en Ukraine. Près de 3 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il est bien obligé d'admettre que la tuerie continue. Pendant tout ce temps, le président américain a rendu son prédécesseur et le président ukrainien Volodymyr Zelensky responsables du déclenchement des hostilités. Et il négocie directement avec la Russie via son homme de confiance Steve Witkoff. Celui-ci a discuté avec la partie russe en fin de semaine dernière et il affirme qu'il y a des avancées. C'est bien de cette avancée des négociations que Steve Witkoff vient parler à Paris avec le chef officiel de la diplomatie américaine. Des discussions avec les partenaires européens sont prévues, car s'ils n'ont pas participé aux négociations directes avec la Russie, ils ont quand même un rôle à jouer et un mot à dire. La France et la Grande-Bretagne ont proposé de participer aux garanties de sécurité d'un éventuel accord de cessez-le-feu s'il finissait par être conclu, en envoyant des soldats sur place. Les deux pays l'avaient proposé juste avant l'humiliation publique de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Il convient donc de rester prudent. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Autre sujet qui sera probablement évoqué, les droits de douane imposés sans retenue par l'administration Trump. Cette thématique sera surtout au cœur d'un déplacement de Giorgia Meloni aujourd'hui à Washington. La présidente du Conseil italien devrait prêcher pour sa paroisse, mais aussi s'exprimer au nom de tous les membres de l'Union européenne.
C'était il y a 50 ans tout juste, après des mois de combats et des semaines de siège, Phnom Penh tombait aux mains des Khmers rouges.
La prise de la capitale cambodgienne par les troupes de Pol Pot a ouvert l'un des chapitres les plus sanglant de l'histoire du pays. 1 700 000 personnes tuées par le régime en 4 ans. Alors ce 17 avril 1975, même s'il était il y a un demi-siècle, même s'il n'avait que 12 ans, le réalisateur Riti Pan s'en souvient comme si c'était hier. Sa famille a été décimée par la dictature, lui a survécu. Désormais, il réalise des films, des documentaires essentiellement. Un survivant donc, c'est un mot qu'il n'aime pas utiliser.
Survivant, c'est, oui, c'est bien, mais on ne survit pas, en fait. On ne survit pas, c'est les autres qui vous aident à survivre. Mmh. Survivant, c'est un nom, un mot, un statut qui m'a beaucoup poussé à faire un certain travail, dont le travail de mémoire.
De mémoire.
Pour dire qui sont ceux qui sont disparus. Et au début, le travail n'était pas très compris par mes compatriotes. Mais 50 ans plus tard, oui, je vois bien les jeunes qui prennent le relais. Ça, c'est pas un travail qu'on peut faire seul, c'est pas mon histoire qui est importante. C'est que il faut faire en sorte que cette histoire ait d'importance et il est universel, s'il appartient à tous. On dit que l'histoire répète, mais on n'apprend rien de l'histoire non plus. On n'apprend strictement rien. Parce que ça continue. Ça continue. Après, vous avez le Rwanda, vous avez en Yougoslavie. Peut-être maintenant les signes qui sont apparus à Gaza.
Le réalisateur franco-cambodgien Riti Pan, notre invité ce matin. Entretien mené par Arnaud Pontus, à retrouver en intégralité sur notre site www.rfi.fr. RFI, il est 8h10 à Londres, où la justice britannique vient de rendre une décision qui risque de raviver le débat autour des droits des personnes trans. D'après la Cour suprême, les femmes transgenres ne sont pas, au regard de la loi des femmes, ne peut être considérée femme, disent les juges, qu'une personne est en est comme telle biologiquement. Et les juges ont été saisis de la question après que l'Écosse a voulu inclure les femmes trans dans les calculs sur la parité au sein des conseils d'administration. Une mesure que certaines associations britanniques jugent dangereuse pour les droits des femmes cis, Emeline Vin.
Ces féministes appartiennent au mouvement TERF, féminisme radical excluant les personnes trans. Signe distinctif, elles reprennent souvent les couleurs associées aux suffragettes britanniques avec des écharpes vert, blanc, violet. L'une des plus connues d'entre elles, c'est J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter. Pour elle, une femme transgenre ne peut pas être une femme comme les autres, elle est et restera un homme et à ce titre, autoriser les personnes transgenres à accéder aux espaces non mixtes menacerait la sécurité des femmes car des hommes risqueraient d'abuser du système à des fins violentes. Suzanne Smith, la présidente de l'association For Women, à l'origine du recours judiciaire devant la Cour suprême, dénonçait en 2023 la mise en place de certificats pour changer de genre administratif.
Alors que nous traversons une période d'intense misogynie, comme l'a souligné J.K. Rowling, il est affligeant de voir que le gouvernement ne peut pas concevoir que des hommes violents s'en servent à mauvais escient. Ces certificats ne doivent pas changer le sexe d'une personne, il faut qu'ils ne changent que leur genre. Je m'en fiche s'ils veulent un genre masculin, féminin, lutin, licorne, peu importe. Mais ils ne peuvent pas prendre la place des femmes.
La transphobie, la discrimination d'une personne parce qu'elle est trans, est interdite au même titre que l'homophobie ou la misogynie. Emeline Van Londres, RFI.
Plusieurs associations LGBT+ ont réagi dans la foulée. Elles estiment cette décision incroyablement inquiétante. Des réactions aussi au sein de la gauche écossaise, où l'on dénonce un retour 20 ans en arrière pour les droits des personnes trans.
On referme ce journal avec du sport et par la défaite du Real Madrid hier à domicile.
Les encouragements des supporters dans le mythique stade Bernabéu n'auront pas suffi. Les Madrilènes s'arrêtent en quart de finale de la Ligue des Champions. Défait hier au match retour par Arsenal 2-1. Pas vraiment une surprise, Thomas de Saint-Léger.
Pour une soirée, le stade Bernabéu chante en anglais. Avant même la fin du match, les supporters d'un Real en panne d'inspiration commencent à s'éclipser, résignés, déçus.
C'était impossible, il fallait y croire, mais c'était trop dur. Ça me rend un peu triste, ce sentiment d'impuissance, cette impression qu'on ne pouvait pas donner plus.
Et c'est rare, au Real Madrid, on est habitué à l'excellence, à l'exceptionnel. Pour la première fois depuis 5 ans, le club aux 15 Ligue des Champions est absent au rendez-vous du dernier carré. Alors, fin de cycle ou pas, le gardien de but, Thibaut Courtois.
Non, je crois pas. Je crois qu'on a beaucoup de jeunes, donc fin de cycle, il n'y a pas. Il y a toujours des changements dans les étés du foot, c'est logique. C'est une cycle qui commence et je crois qu'on peut encore améliorer, mais comme ça, chacun doit être autocritique avec lui-même.
Lui peut l'être sans rougir. Le Belge est l'un des rares au niveau cette saison. D'autres ont déçu ou brillé par intermittence et l'entraîneur Carlo Ancelotti n'aura pas su, cette fois, porter, transcender son groupe.
Par rapport à l'année dernière, on a manqué d'attitude collective, mais il n'y a pas d'équipe invincible. Et maintenant, nous devons gérer cette déception parce que les matchs qui viennent sont importants.
Très important même, il faut rattraper le rival Barcelone en championnat et surtout gagner face à ce même Barça la finale de Coupe du Roi à la fin du mois. C'est ça, où la fronde d'une saison blanche impensable au Real. Thomas de Saint-Léger, Madrid RFI.
Et bilan de ces rencontres, Arsenal devra imposer le même traitement au PSG s'il veut aller jusqu'en finale. L'autre demi-finale opposera le FC Barcelone et l'Inter Milan.
Et on en parlera tout à l'heure avec Antoine Grenier pour le dernier journal des sports de cette matinée. Rendez-vous dans une demi-heure. On parlera aussi de la Ligue Europa qui reprend, elle, ce soir. Merci à vous. Léa Boutin-Rivière, c'est la fin de ce journal. Il est 9h15 ici à Paris. Et tout de suite, eh bien, on va feuilleter les journaux du monde avec Frédéric Couteau. À la une, Frédéric, la France est-elle en voie de mexicanisation ?
Que se passe-t-il autour de certaines prisons en France ? Au moins 6 établissements pénitentiaires ont été visés ces derniers jours par des attaques en région Île-de-France, mais aussi ailleurs sur le territoire national, à Toulon, à Nanterre, à Villepinte ou encore à Valence. Soit des véhicules des agents pénitentiaires ont été brûlés, soit des domiciles supposés d'agents pénitentiaires ont été menacés, soit il y a eu, comme à Toulon, des tirs à la Kalachnikov en pleine nuit. Un bilan inquiétant dressé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Un bilan que rapporte notamment Le Figaro, qui précise que l'inscription DDPF, droit des prisonniers français, a été taguée sur plusieurs véhicules appartenant à des surveillants pénitentiaires. Plusieurs sources évoquent une attaque coordonnée. Les forces de l'ordre tenteraient actuellement de comprendre qui se cache derrière ce mouvement des droits des prisonniers français. L'ultra-gauche, une ingérence étrangère ou encore les narcotrafiquants. Une chose est sûre, pointe Le Figaro, c'est l'État qui est défié et que les uns comme les autres veulent déstabiliser pour imposer leurs lois, créer un État dans l'État. La mexicanisation de la France et d'une partie de l'Europe n'est pas seulement une formule.
Pour le Parisien, le doute n'est pas permis.
Oui, DDPF, 4 initiales pour un leurre. Derrière ce mystérieux groupuscule droit des prisonniers français se cachent sans doute des narcotrafiquants français. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs, assure le journal. Né sur une chaîne de l'application Telegram, ce DDPF au discours sommairement politique n'a semble-t-il pas résisté aux premiers éléments d'investigation. D'après plusieurs sources, des petites mains seraient bien téléguidées par des caïds pour aller mener ces actions punitives et que la justice qualifie désormais de terroristes. Le mot terreur n'est d'ailleurs pas exagéré puisque ce ne sont pas seulement des voitures de surveillants qui sont visées mais bien les surveillants eux-mêmes jusqu'à leur propre domicile.
Et le Parisien d'utiliser également ce terme de mexicanisation.
Aujourd'hui, la pression est mise sur les prisons françaises car les narcotrafiquants supporteraient mal le renforcement des mesures spécifiques pour les plus gros délinquants du narco-business. Si elle est avérée, cette sombre hypothèse montrerait qu'il n'est plus temps de s'alarmer d'une mexicanisation, donc, de la France. Le modèle européen qui s'est mis en place sous nos fenêtres au fil du temps est préoccupant. Il répond à ses propres lois qu'il faut combattre. Le Monde, pour sa part, reste prudent. Les actions ayant visé des centres pénitentiaires ou leurs agents depuis 3 nuits laissent apparaître des modes opératoires très différents, des actions de nature très diverses qui sèment le doute sur les motivations de leurs auteurs.
À la une également, le feuilleton Trump qui continue d'alimenter édito et commentaires dans la presse du monde entier.
Exemple, Le Devoir à Québec qui dénonce les politiques de restrictions culturelles et éducatives décidées par le président américain et son équipe. Le Devoir qui ne mâche pas ses mots. La liste des mots à proscrire, des livres à mettre à l'index, des établissements d'enseignement à étrangler financièrement s'allonge tous les jours. Nous assistons à l'installation d'un régime autoritaire qui condamne, punit, enferme, interdit, expulse à qui mieux, nimbé de sa relation directe avec Dieu, infaillible dans ses jugements, méprisant, menaçant et tapant sur tout ce qui ose mettre en doute la légitimité de ses décisions. Le China Daily s'insurge également. Fermer ses portes aux étudiants étrangers ne rendra pas l'Amérique à nouveau grande, affirme le quotidien proche du pouvoir de Pékin. Le China Daily qui se fait le chantre de la liberté d'expression, ce qui faisait vraiment la grandeur des États-Unis, c'est l'ouverture qu'ils offraient autrefois aux rêveurs, aux faiseurs et aux penseurs du monde. Abandonner cette ouverture aujourd'hui ne reviendrait pas seulement à trahir leur propre héritage, mais aussi à accélérer leur déclin.
Enfin, nous prenons ensemble un peu d'altitude avec cette découverte des scientifiques de Cambridge.
Oui, une découverte rapportée notamment par La Repubblica à Rome, des traces d'une possible vie extraterrestre sur la planète K2-18b grâce au télescope spatial James Webb. Les scientifiques ont pu détecter sur cette planète la présence de 2 gaz qui, sur Terre, sont produits exclusivement par des organismes vivants. Il se pourrait donc que sur cette planète existent des algues marines ou encore d'autres micro-organismes. En tout cas, il sera bien difficile d'aller vérifier sur place car K2-18b se trouve à 124 années-lumière de la Terre.
Et ça fait beaucoup. Merci Frédéric Couteau. C'était la revue de presse internationale. D'où viennent les œuvres d'art exposées dans nos musées? C'est pour répondre à cette question que la France et l'Allemagne ont décidé de s'associer fin 2023 et de créer ensemble un fonds commun consacré à la recherche de l'origine d'œuvres culturelles provenant d'Afrique subsaharienne. Ça y est, les projets concrets sont d'ailleurs désormais lancés. Un congrès vient de se tenir à Berlin pour les présenter. Congrès auquel a assisté notre correspondante Delphine Derbollier.
Ladies and gentlemen, please. Le Fonds franco-allemand de recherche sur la provenance des objets culturels d'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Au total, plusieurs dizaines de chercheurs vont travailler pendant 3 ans. Ils viennent de France, d'Allemagne, mais aussi du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Mali ou encore de la Tanzanie, des pays qui ont été colonisés par ces deux puissances au 19e et 20e siècle. Après son discours de Ouagadougou en 2017, le président français a restitué 26 biens au Bénin. Pour Amadi Bokoum, ancien directeur du musée des civilisations noires de Dakar, cette étape a été cruciale.
Je veux parler de ce que j'appelle l'effet Macron. En déclarant, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel des pays d'Afrique soit en France. Et en projetant de le restituer dans les 5 ans, ce qui n'a pas pu être fait, il a quand même ouvert les vannes. Personnellement, j'ai la naïveté de penser que les lignes feront plus que bouger, malgré de réelles résistances.
Désormais, c'est une nouvelle étape scientifique qui commence. Le Fonds franco-allemand a sélectionné 3 projets de recherche. L'un d'entre eux se concentre sur plus d'une centaine de restes humains, des crânes, des os, des squelettes pillés par les colons dans les actuels Cameroun, Tanzanie et Namibie. Des restes humains conservés dans les collections de l'Université de Strasbourg. Sylvain Djachezefa coordonne la route des chefferies au Cameroun et il participe à ce projet de recherche.
Il y a un travail encore beaucoup plus poussé que les historiens sont en train de faire. Ces restes humains sont partis de quelle communauté? On parle de 1902, 1905 pour le Cameroun. Comment était le territoire? Comment étaient organisées les chefferies traditionnelles? Voilà de quoi il s'agit.
Autre projet qui vient de débuter, il concerne les objets culturels issus de la communauté Banama et spoliés dans ce qui était le Soudan français au tournant du XXe siècle. Une partie de ces objets se trouve au musée du Quai Branly à Paris, une autre, encore plus importante, à Hambourg en Allemagne. Le troisième projet se concentre sur des objets du quotidien, des instruments de musique, des objets cultuels, des ustensiles de cuisine, familiers mais souvent méconnus dans leur société d'origine et dans les lieux où ils sont conservés. Les chercheurs souhaitent les relier de nouveau à leur communauté et notamment aux femmes, donner la parole à celles et ceux qui ont été exclus dans l'histoire coloniale. Delphine Herbollier, Berlin, RFI.
Et ce reportage à écouter en intégralité ce soir dans Action d'Europe à 17h10, temps universel. Les pourparlers doivent reprendre ce samedi à Rome, en Italie, entre l'Iran et les États-Unis. Deuxième session de négociation sur le programme nucléaire iranien. Mais il n'est pas question que de ça, mais aussi, plus largement, de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient et donc aussi de ses alliés, dont le Hezbollah libanais fait partie. Paul Ralifé, vous êtes notre correspondant à Beyrouth et vous nous dites que dans ces discussions se trouve notamment la question du désarmement du Hezbollah. Et cette question, eh bien, elle fait beaucoup réagir au Liban.
Une chose est sûre, parler des armes de Hezbollah n'est plus un tabou. Par le passé, seuls les détracteurs du parti au Liban, au Moyen-Orient et dans le monde réclamaient son désarmement. Aujourd'hui, cette question est évoquée par les dirigeants officiels, la classe politique libanaise et même par le Hezbollah. Selon des médias internationaux et locaux, le parti chiite aurait déjà cédé environ 190 de ses 265 positions au sud du fleuve Litani, conformément à la résolution 1701 des Nations Unies.
Et les États-Unis accentuent leur pression pour un désarmement total du Hezbollah. Paul, quelles sont à ce propos les positions du président libanais et celles de la formation chiite?
Après avoir déclaré dans son discours d'investiture en janvier qu'il œuvrerait pour le monopole de l'État sur les armes, le président de la République a évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours la question des armes du Hezbollah. Il a déclaré la semaine dernière que ce dossier serait examiné lors d'un dialogue bilatéral direct entre la présidence et le Hezbollah. Au Qatar, où il se trouvait en visite officielle mardi, Joseph Aoun a assuré que 2025 sera l'année qui verra les armes concentrées entre les mains de l'État. De son côté, le Hezbollah est parfaitement conscient du changement en sa défaveur des rapports de force au Liban et dans la région depuis la guerre avec Israël à l'automne dernier. Il évite la provocation et tient un discours apaisant. Le parti chiite a récemment déclaré qu'il acceptait de discuter du sort de son arsenal dans le cadre d'un dialogue sur une stratégie de défense nationale évoquée par Joseph Hahn dans son discours d'investiture. Un dialogue qui devrait être précédé par le retrait israélien total du sud-Liban et la libération de la poignée de combattants du Hezbollah détenus en Israël.
Et alors, au-delà du désarmement, il est question aussi d'une intégration de l'aile militaire du Hezbollah au sein de l'armée libanaise.
Le président Joseph Hahn est entré pour la première fois dans les détails du processus de désarmement. Il a indiqué lors d'une interview accordée à la chaîne qatari Al Arab Al Jadid qu'aucune unité indépendante du Hezbollah ne serait incorporée dans l'armée libanaise. Seuls les combattants ayant certaines qualifications et possédant des diplômes académiques seront individuellement admis au sein de l'armée après avoir passé un concours, a ajouté Joseph Hahn. Pour sa part, le Hezbollah garde le silence au sujet du mécanisme d'intégration et n'a encore jamais officiellement évoqué son désarmement.
Paul Ralifé à Beyrouth. Parlons à présent d'une hécatombe, souvent passée sous silence, la mortalité routière chez les animaux. C'est notre question d'environnement du jour, Florent Guignard. Combien d'animaux sont tués sur les routes ?
Beaucoup, beaucoup trop, Andréane. Plus de 200 millions d'animaux tués en Europe chaque année. Et on ne compte que les vertébrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas compté les vers de terre ni les insectes collés au pare-brise des voitures. Et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des insectes. Alors dans le détail, on estime que 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués chaque année, rien qu'en Europe, je le rappelle, sous les roues des voitures et des camions. Les premières victimes, un oiseau, le merle, et une chauve-souris, la pipistrelle. Écoutez, Benoît Thomé, qui vit dans le sud-ouest de la France, à Pau, il préside l'association de défense des animaux Animal Cross.
Chaque semaine, en fait, sur mon trajet qui fait une vingtaine de kilomètres, on me rend au travail, il y a des animaux morts. En fait, dès lors que vous quittez le centre des villes, vous en voyez partout, comme si c'était une fatalité. On s'est habitué à ce que des animaux meurent sous nos voitures. Et les routes soient devenues des cimetières pour les animaux.
Un témoignage, Florent, juste après le cyclone à Mayotte, dans l'océan Indien, au début de cette année.
Avec une mortalité sans précédent pour une espèce de lémurien, les maquis. C'est ce que nous racontait Émilien Dautré de l'association Gepomaï.
Avant, pour traverser les routes, ils passaient par les arbres. Et maintenant, il n'y a plus d'arbres. Et donc maintenant, ils sont obligés de passer par le sol, par la route. On en voit tous les jours écrasés. Ça se compte par centaines. Hein. Et ça, c'est triste. Hein.
Et d'une manière générale, les conséquences de la mortalité routière pour les animaux sont évidemment encore plus tragiques quand elles touchent des espèces déjà menacées.
Et alors Florent, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mortalité routière pour les animaux ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a trop de routes sur la moitié du continent européen. Où qu'on soit, on se trouve à moins d'un kilomètre et demi d'une route ou d'une voie ferrée. Alors il y a une question d'ailleurs, est-ce que ce sont les animaux qui traversent les routes ou bien les routes qui traversent le territoire des animaux ? Réponse de Benoît Thomé de l'association Animal Cross.
Du point de vue des animaux, en fait, quelque part ils sont chez eux en fait, et c'est la route qui vient traverser leur forêt, leur champ. La question des collisions avec la faune sauvage, c'est une vraie question même philosophique en fait, sur le partage du territoire.
Et on a bien compris que l'homme n'aime pas trop partager.
Mais il y a quand même une prise de conscience hein, face à cette hécatombe.
Oui, c'est vrai, pour protéger les animaux des voitures, on construit ce qu'on appelle des écoducs, des viaducs écologiques, des ponts, des tunnels. Les États-Unis construisent le plus grand au monde, en Californie, pour traverser 10 voies d'autoroute. Nous, il y a quelques années, on était allé voir un ouvrage beaucoup plus modeste, situé sous une petite route de France, avec Ingrid Marchand de la LPO. Un ouvrage pour protéger les visons en danger critique d'extinction.
Alors là, on est sur une route qui passe au milieu des marais de Rochefort et où on a eu deux individus de visons d'Europe qui ont été retrouvés écrasés. Donc, il est important de pouvoir agir sur cette menace. On a ici un ponton flottant. C'est un cheminement qui passe sous le pont pour permettre à l'individu d'éviter quand même de passer sur la route.
On construit aussi des écuducs pour les écureuils ou des crapauducs pour les amphibiens. On n'hésite pas non plus d'ailleurs à couper la route pendant quelques jours pour permettre aux grenouilles de traverser pour aller se reproduire dans les étangs. En Normandie, on a ainsi évité il y a quelques semaines la mort de 2000 amphibiens. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça promet quand même des naissances.
Florent Guignard pour la question d'environnement sur RFI. Merci Florent.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
80 000 personnes dans le monde gagnent plus de 80 000 euros par mois.
ce sont les hyper riches et ce sont eux qui, pour la plupart, ravagent la planète avec des modes de vie insoutenables. Nos invités ont enquêté.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
40 ans après son enlèvement au Liban, où il est resté otage plus de 1000 jours, Jean-Paul Kaufmann se souvient surtout de son enfance en Bretagne, dans un petit village. Une époque, dit-il, dont les images heureuses l'ont sauvé de la captivité. Un témoignage inédit qu'il livre dans son nouveau récit intitulé « L'accident ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.